Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la grande tchatch Le Ravi avec Radio Grenouille. Aujourd'hui un invité, c'est Raphaël Liogier. Vous l'avez compris, on va parler d'islam, de fondamentalisme, de djihadisme. On va expliquer, en tout cas on va tenter d'expliquer toutes ces notions. Raphaël Liogier, vous êtes professeur à l'IEP, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez également l'Observatoire du Religieux. Une émission donc, la grande tchatch réalisée en partenariat avec Radio Grenouille et le mensuel Le Ravi, préparé avec Michel Guéraud et Rafi Amal. Raphaël Liogier, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Un universitaire à la fois sociologue et philosophe, spécialiste des religions, de la laïcité, de l'islam et du populisme, il n'en fallait pas moins, pour faire de vous l'un de ces experts auprès desquels les journalistes et les politiques aiment tant s'afficher. Vous vous prêtez à l'exercice médiatique avec courtoisie et un certain détachement circonspect. La clé de cette sérénité à toute épreuve se trouve dans votre fiche Wikipédia, source indépassable de tout grand journalisme d'investigation, j'en suis. Le cours de votre vie a en effet changé en 94, vous n'aviez alors que 27 ans, lors d'une rencontre avec le Dalaï Lama en visite à Marseille, dont vous avez ensuite suivi l'enseignement. Votre thèse de doctorat, sous la direction de Bruno Etienne, a ainsi questionné une approche politique de l'occidentalisation du bouddhisme. Répertorier ici tous vos travaux, citer tous vos essais serait trop fastidieux au regard de leur richesse et du rythme de vos publications qui s'intensifie. Vous êtes désormais professeur des universités à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, où vous dirigez aussi l'Observatoire du religieux. Membre de la Commission internationale de la paix à l'UNESCO, vous enseignez à Paris au Collège international de philosophie. Contrairement à d'autres universitaires, aucun sujet potentiellement polémique ou lié à une actualité brûlante ne vous rebute. Les croyances, le New Age, les biotechnologies et les transhumanistes, les sectes, la peur de l'islamisation, les nouvelles formes de populisme que vous qualifiez désormais de liquides. Et vous avez assumé, toujours avec zénitude, l'avalanche de sollicitations après les attaques de Charlie Hebdo, de l'hypercachère et la succession d'agressions islamophobes qui ont suivi. Mais je tenais particulièrement à tirer mon chapeau après votre passage devant la commission d'enquête parlementaire sur le suivi des filières djihadistes présidée par Éric Ciotti. Pour garder son calme devant l'inénarrable secrétaire national de l'UMP chargé des questions de sécurité, devant ce chantre de la laïcité virile et de la xénophobie courtoise, il faut assurément avoir approché le Dalaï Lama et atteint le Nirvana.
Raphaël Liogier, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Ah, c'est un portrait qui me ravit, donc qui est tout à fait dans la ligne, j'ai l'impression, du journal, donc ça me va très bien, je le trouve haut en couleur et peut-être trop ravissant pour ce que je suis en réalité, faut dire.
Alors Raphaël Liogier, passons à vos choses un petit peu plus tristes, un petit peu plus sérieuses. Il y a eu un massacre, celui de Charlie Hebdo, celui de la supérette cachère également. L'islam a été projeté en avant dans les faits divers. Et juste une question d'abord, on parle d'islam, d'islamisme, de djihadisme. Il y a une différence ?
Ah bah il y a beaucoup de différences. Déjà quand on parle d'islam, on parle d'un corps de doctrine qui se fonde sur un texte qui est supposé être un texte révélé, tout au moins de la, c'est comme ça que le conçoivent les croyants, qui est le Coran. Puis après un certain nombre de sous-textes, on va dire, de commentaires, et qui se traduit par des pratiques qui sont effectuées par un certain nombre d'individus qui se veulent musulmans sur l'ensemble de la planète. Ça c'est l'islam. Ensuite, quand on parle de fondamentalisme, ce sont des gens qui prétendent, en gros, qui eux veulent revenir au fondement. C'est à peu près la même chose de parler de radicalisme. Radicalisme, ça veut dire à la racine. Ils veulent revenir à la racine, ils veulent revenir au fondement. En général, ils utilisent les textes et ils disent, nous, on interprète les textes de façon plus rigoureuse, plus fondamentale. C'est ça, les fondamentalistes. En général, ils sont plus aussi rigoristes du point de vue des mœurs, du point de vue de la sexualité, du point de vue de toute une série de choses. Parce que s'ils se veulent fondamentalistes, c'est parce qu'ils disent, ah, rien ne va plus dans cette société, donc nous, on va relire les textes et on va revenir à l'origine. Il y a des fondamentalistes dans toutes les religions. Puis ensuite, il y a l'islam. L'islamisme, c'est autre chose. L'islamisme, c'est l'interprétation du fondamentalisme ou de l'islam en général, sans forcément même être fondamentaliste, mais politique. C'est-à-dire pour dire, oui, il faut que ça se traduise, c'est-à-dire il faut que nos convictions religieuses se traduisent politiquement. Et ça a permis le développement d'une idéologie qu'on appelait l'islamisme ou synonyme islam politique. Donc voilà, tout ça sont des choses très différentes parce qu'il peut y avoir un islamiste qui soit réformiste et tolérant. C'est-à-dire, il veut appliquer ses principes religieux en politique, Hein, comme un chrétien voudrait appliquer la charité chrétienne en politique, mais ça pourrait être du christianisme de gauche. Hein, et néanmoins, il ne serait pas fondamentaliste. Mais il est vrai que dans le contexte musulman, en général, l'écrasante majorité des islamistes, c'est-à-dire ceux qui veulent faire de la politique avec l'islam, sont en même temps fondamentalistes, c'est-à-dire qu'ils sont pour une sorte de retour rigoriste aux sources, etc.
Alors,
ah, c'est compliqué. Hein,
Raphaël Laugier, c'est bien de spécifier certaines notions. On a, comme disait Michel, une inflation exponentielle des pseudo-experts. Il y a un mot qui a été jeté un petit peu au devant de l'actualité, c'est le djihadisme, le djihadisme. Alors, un mot là-dessus, peut-être pour les auditeurs, un djihadiste, c'est quelqu'un qui forcément va aller se kamikazer ?
Non, déjà, on confond la notion de djihad, qui veut dire effort constant, effort dans une direction donnée, avec la notion de shahid, qui est l'idée du martyr. Et ça, c'est effectivement, il y a eu dès le 7e, 8e, siècle des croisements, mais c'est pas quelque chose qui va de soi. C'est-à-dire le djihadiste, c'est un guerrier qui est soit un guerrier, ce qu'on appelle le grand djihad, contre lui-même, c'est-à-dire c'est un guerrier moral, un guerrier de ses... Il lutte contre ses instincts, il lutte contre ses désirs, il lutte contre ses tendances instinctives. Et puis, il y a le djihad, effectivement, qui a existé aussi, qu'on appelle le petit djihad, mais qui est le djihad guerrier. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'islamistes au 19e siècle et au 20e siècle ont interprété le djihad presque exclusivement d'une manière guerrière, sans qu'on soit encore dans la logique terroriste. La logique du djihad terroriste, elle n'apparaît qu'à l'extrême fin des années 70, début des années 80, et elle se développe en quelque sorte en remplacement, on pourrait dire, des groupes terroristes d'extrême gauche, type la bande Abadère en Allemagne, ou Action Directe, voilà, toute une série de groupes d'extrême gauche qui vont être dissous, qui vont plus exister. Et ce djihadisme islamique va prendre la place idéologique, et va prendre la place logistique, et va même s'inspirer des méthodes. Et d'ailleurs, quand on parle de guerre des civilisations, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le juste, puisque les symboles qui sont visés sont tout le temps des symboles du capitalisme, de la société de consommation, d'ailleurs ce qui correspond à la rhétorique de ce djihadisme des années 80-90. Je ne suis pas le seul à le dire, Olivier Roy l'a amplement démontré. Et
en même temps, ça paraît étonnant, puisque dans les années 70, on a favorisé l'islamisme pour combattre le communisme en disant que l'islamisme était fondamentalement capitaliste.
Bien entendu.
Aujourd'hui, il y a un retour de situation.
Tout à fait. C'était parce que c'était lié à la guerre froide. C'est à la faveur de la guerre froide, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais enfin, c'est à la faveur de la guerre froide, en particulier en Afghanistan, que la forme, j'allais dire, moderne du djihadisme, avec une intervention directe du djihadisme donc terroriste, s'est développé, financé directement par les Américains, financé par les Saoudiens et les Américains contre la peur de la soviétisation de l'Afghanistan. Donc c'est quand même assez, je ne veux pas dire que c'est drôle, mais c'est un retour de l'histoire assez étonnant.
Dans votre travail pour définir les choses dans l'émotion, là, dans la période qui a été la nôtre, vous ne cessez pas de répéter que il y a une erreur à ne pas faire, à savoir de croire qu'on assiste à une radicalisation des mouvements islamiques. Vous dites non, c'est pas de ça qu'il s'agit.
Ah, oui, c'est très important. Alors, votre question est cruciale, je pense, parce que moi, ce que j'ai essayé de montrer, alors là, ce que ne montrent pas des collègues comme Olivier Roy et autres, et qui est lié, c'est le produit d'enquêtes qui sont des enquêtes de terrain très récentes, c'est que ce djihadisme dont je vous ai parlé, même y compris le djihadisme terroriste des années 80-90, eh bien, aujourd'hui, est moins important, il est moins prégnant. Et alors, ce qu'on a vécu à Paris, ce n'est pas ce djihadisme-là, justement. Ce n'est pas le djihadisme anciennement d'Al-Qaïda, Afghanistan, idéologique, qui peut se traduire, lui, par des formes de radicalisation, c'est-à-dire qu'on va avoir une lecture du texte radicale, au sens où on va prétendre qu'on revient à la racine, et puis progressivement, on va endoctriner un certain nombre d'individus. Moi, je prétends qu'aujourd'hui, on est dans l'embrigadement, mais qu'on n'est plus dans l'endoctrinement.
C'est-à-dire, pour les auditeurs, on peut passer de l'extrémisme sans passer par la radicalisation.
Et sans même passer par le religieux. C'est-à-dire que il y a le développement, c'est ce que j'ai observé depuis le début des années 2000, de ce que j'appelle un nouvel hooliganisme qui s'habille de l'islam. C'est-à-dire avec un désir d'action antisociale qui n'a pas besoin du religieux pour s'exprimer, qui en soi veut être antisocial. Un peu comme ce que vous aviez dans les... Là encore, revenons aux années 70-80. Aux années 70-80, vous avez ces mouvements punk qui pouvaient être S'ils étaient punks, c'est plutôt d'extrême gauche, extrêmement dur, avec des symboles qui étaient de se teindre les cheveux d'une certaine couleur, des signaux antisociaux. Et puis on va avoir les skinheads, plutôt d'extrême droite, avec le fait de se raser, de s'habiller en noir, etc., qui étaient des signaux, une esthétique antisociale. Il ne faut pas oublier que l'esthétique joue un rôle d'action antisociale. On s'habille d'une certaine manière pour signifier ce qu'on est. Or, en raison même de ce que moi j'appelle le mythe de l'islamisation et de la désignation du musulman entre guillemets comme étant l'ennemi fondamental de notre société, eh bien l'islam est devenu pour certains un symbole antisocial. Et du coup, on a des groupes de gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, alors qui vont être d'origine entre guillemets ethno-culturelle musulmane, même si ça veut rien dire, c'est-à-dire qu'ils vont être d'origine maghrébine ou autre, à force de les désigner comme tels alors qu'ils n'y avaient jamais pensé, qu'ils étaient peut-être plus dans le trafic de drogue, dans la boisson, dans les filles, dans tout ce que vous voulez, qui vont se réunir et qui vont réunir leurs frustrations, qui vont constituer des sortes de petits groupes, hein, et qui vont constituer des groupes antisociaux, qui vont se parer, qui vont mettre des bandeaux avec une inscription de slogan, donc pas du tout idéologique, antisocial, en disant c'est musulman. Et il va y avoir, par exemple, on avait repéré un petit groupe qui s'appelle Force Anée Alitza, les Chevaliers de la Fierté. C'est des gens qui, c'est une organisation qui avait été créée en 2010, qui a été dissoute en 2012. Eux, ils n'étaient pas spécialement dangereux, mais ils étaient dans la visibilité sur YouTube. Ils se filmaient eux-mêmes en train de brûler, ils faisaient un auto-da-fé, ils brûlaient le code pénal français, un gros tas de code pénal français, ils cassaient des voitures, tout ça en le filmant. Hein, bon. Ces gens-là, en fait, sont les ancêtres des Kouachi, de ces gens-là. Parce que quand vous observez leur biographie, vous vous rendez compte, ces gens, ils n'ont pas accès à l'islam, ils sont complètement analphabètes. Et par contre, ils ont des points communs, ils n'ont pas, en général, de père, ou le père est symboliquement ou physiquement absent, ils sont dans la frustration, ils sont dans les rêves déchus, ils voulaient être superstars, ils voulaient être rappeurs, ils voulaient être footballeurs, voilà.
En même temps, Raphaël Loger, il y a quand même, s'il n'y a pas une idéologie franche, il y a un début d'idéologie, puisque tous condamnent, tous une espèce de dépravation des mœurs, un retour à un idéal. C'est un début d'idéologie, ça, quand même.
Ça serait la version skinhead. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je compare à ce hooliganisme. C'est-à-dire que, mais c'est pas une idéologie construite et directement souchée sur l'islamisme qu'on a évoqué au début de l'émission. C'est ça, moi, que je souligne. Du coup, on n'a pas radicalisation. Et quand je dis ça, c'est pas pour essayer de détourner l'attention. C'est pour dire que justement, le gouvernement a l'attention qui est détournée parce qu'il fixe sur des mouvements fondamentalistes qui existent aujourd'hui en France, mais qui en réalité sont pour leur écrasante majorité anti-djihadistes. Mais comme on est, et ce sont des gens qui sont effectivement, qui vont se laisser pousser la barbe, qui vont s'habiller d'une manière qui peut paraître choquante lorsqu'on n'a pas l'habitude, qui vont vouloir manger exclusivement halal, qui vont avoir, mais ça, ce sont des phénomènes de radicalisation, là, effectivement, qui existent dans notre société, pas seulement du côté des musulmans, qui existent chez les bouddhistes, par exemple. Mais ça, ça nous fait moins peur parce que c'est pas l'islam. Mais chez des bouddhistes, vous avez des gens qui vont s'habiller, qui vont penser qu'ils sont plus que végétariens, qui vont être végétaliens, alors qu'en réalité, les bouddhistes sont pas supposés être forcément végétariens, mais c'est pas grave. Qui vont s'habiller avec une robe safran, marcher pieds nus sur le pont Neuf, en étant avec un air complètement, on a l'impression, on sait pas d'où ils sortent. Mais ceux-là, ils nous font pas peur, ils nous font rire. Si c'est la même chose avec une jeune femme qui porte un voile intégral, qui effectivement a pas l'air très équilibré dans sa manière, dans ses comportements, qui est un peu extrême, là d'un seul coup on va penser que c'est un glissement qui peut aboutir au terrorisme. Alors que moi ce que j'essaye de montrer, c'est que ce sont deux voies parallèles. D'un côté il y a une sorte de néo-fondamentalisme, mais qui en réalité est de moins en moins islamiste, c'est-à-dire de moins en moins politique, complètement dépolitisé, ces jeunes filles qui mettent le voile intégral, très individualiste, très on veut se rapprocher de Dieu, on veut se distinguer, hein. Puis à côté de ça il y a ce hooliganisme qui peut être très très violent, mais il n'y a pas de jonction, alors que le gouvernement fait la jonction entre les deux. Manuel Valls fait la jonction entre les deux.
On va venir sur les propositions, ouais, du gouvernement et ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas même s'il n'y a pas des liens directs dans ce que vous expliquez, est-ce qu'il n'y a pas un terreau, c'est-à-dire la radicalisation, une radicalisation islamiste, le salafisme, même si ce n'est pas du djihadisme, est-ce que ça ne fait pas un terreau sur lequel va pouvoir se développer ce que vous décrivez, hein, de la même façon que, par exemple, la progression de l'extrême droite et de sa figure, de sa vitrine institutionnelle, le Front National, peut permettre à des groupuscules d'exprimer d'exprimer leur antisémitisme, leur islamophobie ou leur violence et leur rejet de la démocratie représentative. Est-ce qu'il n'y a pas malgré tout comme ça une articulation, mais si on la pose comme ça?
Alors moi je ne le verrais pas en termes de terreau, mais en termes d'articulation, justement. C'est-à-dire que ces individus, ils passent directement, on voit bien dans leur parcours, ils passent directement du type comme Koulibaly, du type qui montre ses gros muscles, qui a un problème, on l'a vu, il y avait eu une analyse psychiatrique de son cas lorsqu'il était en prison, une sorte de narcissisme déchu, frustré, donc il voulait être très musclé, il voulait être un guerrier, il voulait être toute une série de choses qu'il n'arrivait pas à l'évidence à être. Et on le voit, cet individu, il passe directement à l'islam, c'est-à-dire au djihadisme, mais en même temps l'islam et la pratique musulmane et le fondamentalisme fait partie de la panoplie. Donc l'articulation elle est là, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé au djihadisme, pratiquer l'islam et être fondamentaliste, ça fait partie de l'entraînement. Mais en fait on est d'abord djihadiste, vous voyez ce que je veux dire? Et donc à ce moment-là, oui, ces gens-là vont se mêler au milieu fondamentaliste et vont faire partie de ces milieux. Et on n'arrivera plus à les reconnaître. C'est pour ça que moi je disais, mais il faut les reconnaître avant, parce que c'est déjà trop tard. Il n'y a pas de glissement de la madrassa, d'une interprétation qui va être dans des écoles islamiques. Il n'y a pas une sorte de continuité, si vous voulez, c'est ça que je veux montrer. C'est-à-dire qu'ils sautent sur le djihadisme, puis après, il vient effectivement au fondamentalisme, parce que ça fait partie de l'entraînement. Donc là, il y a l'articulation.
Alors, pour ces raisons-là, vous dites, le gouvernement lance la réforme de l'islam de France, hein, c'était avant-hier, et parmi toutes les mesures, il y a cette volonté de se préoccuper de la formation civile des imams, de la façon dont l'islam peut pénétrer et être enseigné en prison. Et là, vous dites, pour ces raisons-là, peut-être que c'est une erreur, le gouvernement se trompe de...
C'est compliqué, en réalité. C'est compliqué.
Un mot d'abord, un mot sur les prisons, parce que tout le monde parle des prisons, ça serait le terreau.
Un mot sur les prisons.
Est-ce que c'est là qu'on est susceptible de se radicaliser davantage?
Dans les années 90, par exemple avec l'affaire Kelkal, on a vu que c'était vrai, c'est-à-dire que c'est un individu qui s'est vraiment radicalisé au sens où il s'est mis à l'arabe, il a été influencé par des gens qui étaient sur place et il s'est mis à lire le Coran, à pratiquer et à avoir une vie qui était conforme à cela en 2 ans, ça a duré 2 ans pendant son incarcération, 96 je crois 18, quelque chose comme ça, et effectivement là il y a eu un vrai glissement. Aujourd'hui ça ne se passe pas comme ça, la prison est toujours un lieu stratégique parce que c'est le lieu de rencontre des frustrations. Et donc, ces individus qui sont dans cette espèce de stigmatisation, hein, qui se sentent stigmatisés, c'est le lieu de rencontre de ces rêves déchus, la prison par excellence. Et donc, la prison joue encore un rôle, mais elle joue encore un rôle pour passer directement au djihadisme sans le processus de radicalisation aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pour ça que c'est peut-être, justement, on en arrive à votre question, que ça sera pas tout à fait efficace de dire on va former des imams dans les prisons qui vont être des gens bien, qui vont faire un certain nombre de choses, parce que de toute façon, c'est à travers les gens, enfin à travers les co-détenus que va s'effectuer ce que vous appelez cette radicalisation, moi que je préfère extrémisation ou au moins radicalisation antisociale, c'est-à-dire vraiment ce processus-là, sans qu'il y ait besoin de passer par les étapes de la lecture du Coran, de ceci, de toute une série de choses. Donc on vise mal, c'est ça moi que je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'ensuite c'est pas intéressant de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il en manque pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Vous voyez.
Mais ces gens-là, de toute façon, ils ont toujours, à un moment ou à un autre de leur parcours, un guide, c'est-à-dire un imam autoproclamé. Et une
comme tous les imams, hein. Je sais que c'est une expression que tout le monde, comme tous les imams, puisque par définition
de
l'islam, voilà.
Non.
Donc ils sont, c'est pour ça que j'entends dans les médias imam autoproclamé, imam autoproclamé. Est-ce que vous en connaissez un qui n'est pas autoproclamé?
Il y en a qui ont fait des études de théologie,
voilà.
On va dire.
Ah oui, mais d'accord, mais c'est en même temps un imam, c'est quelqu'un qui va être suivi parce qu'il va être, il va bénéficier d'une sorte d'aura et tout le monde peut l'être.
Quoi, justement, le gouvernement tente un peu de canaliser ces formations, de donner de la substance au discours des imams. Ça aussi, c'est une des clés.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose de positif. Alors, je vous le dis, je l'ai dit sur une télévision que j'aime pas trop pourtant, mais bon, qui est BFM TV avant-hier, justement, le soir même. Et c'est la première fois que je félicite un ministre, et qui plus est un ministre de l'Intérieur, ce qui est pas d'habitude trop mon style. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs aussi en direct. Pourquoi? Parce que Il y a quelque chose de positif qu'il faut soutenir, je crois, dans sa démarche. Pas tout, parce que le côté formation, c'est le passage de la condescendance à une valorisation réelle. Et il l'a dit, une fondation avec l'aspect universitaire, valoriser l'islamologie. Et à ce moment-là, c'est le début du début, peut-être, mais c'est déjà pas mal, d'essayer de contrecarrer cette symbolisation de l'islam comme étant antisocial. En disant non, l'islam, c'est quelque chose de vraiment positif. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas en rester à simplement des déclarations, à des petites mesures. Il faut que ce soit, quelque chose de réel. Moi, j'étais favorable à une faculté de théologie islamique à Strasbourg, puisqu'on peut le faire à Strasbourg. Il y a déjà une faculté de théologie protestante et catholique qui dépendent de l'université de Strasbourg 2. Donc vraiment public. J'étais favorable à ça parce que ça veut dire que plus que de faire de la formation avec ce côté condescendant, on va vous expliquer ce que c'est que d'être un vrai citoyen, comme si a priori, sous prétexte que vous êtes musulman, vous n'êtes pas un vrai citoyen. C'est plutôt de faire cette université, ça dit, mais regardez, ce sont des études supérieures. Et donc on peut faire des études supérieures sur l'islam. Et même, j'allais dire, pour faire une boutade, pourquoi pas essayer de faire de Strasbourg un lieu où cette fameuse réforme, eh bien, ça, là où ça se passe. Pourquoi pas en faire de l'Europe un phare de l'islam ? On a peur de ça en raison du mythe de l'islamisation ? Mais non, pourquoi pas ? Pourquoi pas faire ça ? Pourquoi pas réfléchir ? Pourquoi pas laisser les musulmans réfléchir ? Pourquoi pas donner des diplômes, qui soient des diplômes de doctorat, de master, et laisser se créer ? Ils sont libéraux, donc...
Ça serait ce que certains politiques appellent l'islam de France ?
Ah ben là, il y aurait véritablement la constitution d'un islam de France qui déplacerait l'islam en France. Parce qu'aujourd'hui, on a une sorte d'islam en France. Pourquoi je dis l'islam en France ? Parce qu'on a le sentiment que certaines personnes, sous prétexte qu'ils sont musulmans, même s'ils sont nés en France, sont quelque part des étrangers de l'intérieur.
En même temps, il y a une réalité, Raphaël Liogier, la plupart des imams, quand arrive le Ramadan par exemple, le Maroc envoie des centaines d'imams, l'Algérie également, ouais. Donc c'est difficile de construire un islam de France avec des gens qui sont salariés d'un état étranger. Mmh. Le recteur de la mosquée de Paris par exemple a été pendant très longtemps salarié, je ne sais pas si c'est encore le cas, de l'Algérie.
Deuxième mesure justement qui me paraissait intéressante de la part du ministre de l'Intérieur...
C'est en train de mal tourner là.
Et maintenant, je ne sais pas s'il va le faire. Toute la question, oui, c'est un discours, parce que déjà, il est en train de prendre des retours de bâton de sa hiérarchie directe. Si, est-ce que le premier d'entre eux, des ministres, qui lui est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, puisqu'il est sur la guerre de civilisation. Ça y est, on est en. Sa deuxième mesure, c'était quoi déjà votre question?
Arrêter de salarier d'importer des imams salariés d'autres pays. Quoi.
C'est que le CFCM n'est pas une organisation représentative de la réalité des musulmans de France. C'est clair. C'est une organisation qui est directement souchée sur les différences entre les courants qui sont les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, et qui sont dans des rapports de force, etc. Or, depuis, on va dire, 15 ans à peu près, c'est constitué un islam d'une nouvelle génération qui est ce qu'il est, qu'on peut reprocher à certain nombre de choses.
En même temps, c'est pas celui qui fait le plus l'unanimité, c'est pas celui qui plaît le plus. L'OIF est très important.
Je suis d'accord.
C'est les frères musulmans.
Oui, je suis d'accord, mais
c'est quand même une des sources du problème.
C'est pas si c'est une des sources du problème, c'est une des sources de la projection du problème, en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est un islam qui a des caractéristiques esthétiques qui n'ont plus aucun lien avec la Tunisie, avec tout ça, etc. C'est des jeunes, ils sont dans une sorte de retour à soi qui passe par le retour à ce qu'ils estiment être quelque part leurs racines. Hein. Et donc ils sont dans ce mouvement-là. On ne peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer parce que sinon on se coupe de la base de ce que sont vraiment en train de devenir et ce que sont réellement les musulmans aujourd'hui. On peut pas l'ignorer sous prétexte qu'on aurait peur parce que certains se font pousser la barbe. On peut pas l'ignorer, tout simplement. Voilà. Et je crois...
Même s'ils sont sous influence des frères musulmans égyptiens, par exemple, ou turcs.
Déjà, qu'est-ce que ça veut dire, les frères musulmans? Les frères musulmans, c'est un mouvement qui est extrêmement complexe. Chez les frères musulmans, il y a des gens qui sont réformistes. Chez les frères musulmans, il y a des gens qui ne sont pas réformistes du tout.
Ils ont la réforme discrète quand même.
Non, mais il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire que. C'est pas qu'ils ont la réforme discrète, c'est que ceux qui sont réformistes, ils sont toujours plus discrets que les autres par excellence. Moi, je vois en ce moment à l'IEP, à l'IEP d'Aix-en-Provence, où on a un administrateur provisoire, où les gens qui crient le plus fort sont ceux qui sont les plus extrêmes, donc c'est ceux qu'on entend. Mais si justement on a peur de ceux qui font le plus de bruit, eh bien, ceux qui sont derrière, on les met dans le même sac, alors qu'il y a aujourd'hui le développement d'un salafisme piétiste, clairement, sociologiquement, d'un salafisme piétiste, qu'on ne trouve pas très joli, parce qu'effectivement, il y a les barbes, je vous dis, il y a tout ça, mais en même temps, des gens qui sont farouchement opposés à toute action, non seulement terroriste, mais même à toute action politique. C'est-à-dire, ils sont tous farouchement opposés. Ça peut poser d'autres problèmes, ce qu'on appelle le communautarisme. C'est... Mais en tout cas, du point de vue de la paix sociale, ça ne pose aucun problème. Donc, il faut... L'ennemi ici, c'est pas les musulmans, c'est pas l'islam, c'est pas les frères musulmans, c'est la simplification outrancière qui ne fait que profiter aux branches les plus dures, y compris les frères musulmans, justement.
Michel Guéraud,
vous allez sortir un livre qui s'appelle Contre le choc des civilisations, les nouvelles croyances globales.
Le titre a changé en fait, c'était ça au début. Bon, ça sera La guerre des civilisations n'aura pas lieu.
La guerre des civilisations n'aura pas lieu. Et l'éditeur, ça sera toujours.
CNRS Édition.
Bon, d'accord. C'est pour mars toujours. Peut-être
un
petit retard.
Je pense que ça sera peut-être avril, mais.
Bon, d'accord.
Parce qu'en raison des événements, j'ai dû tellement me mobiliser que j'ai eu un peu de retard sur l'écriture de la fin, la révision des trucs.
D'accord. Alors venons-en à la question de la laïcité et de ce qu'on fait de la laïcité dans le moment qu'est le nôtre par rapport à la question de l'islam et de la naissance ou de la nécessité de faire émerger un islam de France.
Ouais. La fonction de la laïcité, c'est pas de faire émerger un islam de France. Mmh. La fonction de la laïcité, telle qu'elle est définie, même si le mot n'était pas encore employé à l'époque, en 1905, dans la loi 1905, c'est l'application, en quelque sorte, d'un principe qui est dans la déclaration de 1789, qui est le principe de la liberté de conscience, appliqué à la liberté d'expression de cette conscience, en particulier d'expression du culte. Or, il se trouve qu'à cette époque, il y avait une inégalité entre l'Église catholique qui bénéficiait d'un régime particulier, d'un accord particulier, une convention avec l'État, par rapport aux autres cultes. Et donc, ce que fait la loi de 1905, c'est premier paragraphe de la loi de 1905, c'est la reconnaissance de la liberté de culte. C'est pas ce qu'on imagine, c'est la reconnaissance de la liberté de croire ou de ne pas croire, hein, mais de croire ce qu'on veut. Mais pour ça, il faut... Un, liberté, c'est le principe de liberté, égalité, fraternité. Un, liberté. Deux, ben, il faut que ce soit égalité. Donc l'État doit s'assurer que c'est à égalité. Et trois, principe qu'on oublie, fraternité. Comment il se manifeste dans la loi de 1905? Il se manifeste dans le fait que si un culte, pour des raisons sociales, pour le coup, par exemple de précarité, de pauvreté, d'exclusion, n'a pas les mêmes moyens de pouvoir exprimer librement son culte, à ce moment-là, l'État se doit de rééquilibrer. Et ce n'est pas contre du tout. Par exemple, les mosquées qui sont des mosquées dans les caves, où il y a des conditions d'hygiène, etc., l'État se doit de faire en sorte que ça puisse être vécu.
Elle a délégué ça aux collectivités locales, quand même.
Oui, un petit peu. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une... C'est en tout cas dans l'esprit. Ensuite, il y a un autre principe qu'on a assimilé au principe de la laïcité, qui est, fait partie du principe de la laïcité, mais qui n'est pas défini dans la loi de 1905. C'est le principe de neutralité. La neutralité, c'est la jurisprudence administrative après la loi de 1905. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que pour assurer cette liberté dans l'égalité et la fraternité, eh bien, il faut que les agents publics, c'est-à-dire les représentants de l'État, soient neutres, ou du moins le plus possible, puisqu'on ne peut jamais être complètement neutre. Pourquoi? Pour que justement les publics, c'est-à-dire les agents du public, doivent être neutres pour permettre au maximum au public d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer sans les influencer. Alors qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est la neutralité des publics. La neutralité des publics, c'est simple. C'est exactement le contraire de la laïcité. C'est ce que je trouve drôle et pathétique, quand même.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi aujourd'hui avec Raphaël Liogier, on parle de laïcité. La laïcité, c'est devenu une espèce de mur un petit peu mou dans lequel on se cogne et qu'on rebondit sans cesse. Aujourd'hui, on parle des jeunes filles voilées. D'ailleurs, Éric Ciotti, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, avec qui vous collaborez. Vous avez le plaisir de collaborer.
Je ne collabore pas avec Éric Ciotti. Lorsqu'un représentant de la République qui se trouve être le président d'une commission parlementaire m'invite à m'exprimer, c'est pas tous les jours qu'il le demande. Je le fais, mais je le fais librement, hein, croyez-moi.
Donc, Monsieur Ciotti envisage, au nom de la défense de la laïcité, d'interdire le voile, par exemple, dans les universités. Là aussi, la laïcité est menacée à ce point-là, rappelle Liogier.
C'est une aberration totale. C'est une aberration
totale.
Là, du coup,
on est du côté public, hein, pas du côté représentant.
Bien sûr, mais c'est une aberration totale. Exactement, on est du côté public. Je vais vous dire, la loi de 2004 sur l'interdiction des signes ostensibles à l'école.
Vous y étiez favorable,
publique,
vous?
Non.
Vous préférez la circulaire un peu floue
Elle n'est pas floue du tout, la circulaire. C'est... Non, non, non.
Il y a
c'est
des profs qui ont eu des torticolis au cerveau. Quand
oui,
même.
Enfin, les profs, ils ont des torticolis au cerveau parce que les profs, ils sont aussi pris dans l'idée de le mythe de l'islamisation. C'est ce que j'appelle aussi les phénomènes d'anticipation. On pourrait parler aussi de l'hôpital, si vous voulez. Je vous donnerai des exemples précis parce que c'est un sujet que je connais bien, sur lequel on m'a beaucoup interrogé, donc j'ai mes réponses qui sont bien préparées. mais je vais vous dire, prenons l'exemple de l'école. Moi, je connaissais bien Bernard Stasi, qui était à l'origine de cette loi. J'en avais discuté avec lui. Je lui ai dit, ce n'est pas une loi, déjà, qui est justifiée au nom de la laïcité, premièrement. Puisque la laïcité, le principe, comme je vous l'ai dit, dès le début, c'est la liberté de culte. Donc là, quand on limite la liberté d'individu, on le fait au nom d'autre chose. La seule chose, le seul concept où on peut limiter la liberté en démocratie, dans une république, dans un état de droit, c'est l'ordre public. Tranquillité, salubrité, sécurité publique, c'est-à-dire qu'il y aurait l'intégrité physique et morale de personnes, morale, là en l'occurrence, qui serait atteinte. Là pourquoi ? Parce que comme c'était des mineurs, et c'était la seule justification, la seule, qui n'est pas une justification laïque, parce que ce sont des mineurs, on estime qu'elles peuvent être manipulées par leur famille, donc il y a violence morale, ou par leur entourage. C'était la seule justification. Moi j'ai dit à l'époque, je ne suis pas d'accord parce que nos enquêtes sociologiques nous montrent que c'est celles qui sont au contraire les plus, même contre leur famille, qui le font. Du point de vue sociologique. Maintenant, vous partez de ce principe, je dis dont acte. Dont acte, voyez à quel point je suis gentil. Comme je suis mignon. Rien, bon. Deuxièmement, la loi sur l'interdiction du voile intégral, c'est-à-dire qui interdit de couvrir son visage en public. Cette loi, de même, elle n'est pas justifiée par la laïcité puisque c'est une limitation des libertés fondamentales. Donc, comment elle est justifiée ? Cette fois, par l'ordre public, mais identification. Sécurité, oui. Identification, pour des raisons de sécurité, tranquillité, salubrité, identification. Bon. Je sais, moi, qu'il n'y avait pas de problème parce que les jeunes femmes... Elles acceptaient de montrer leur visage, surtout quand elles allaient à la poste pour aller chercher un colis. Elles comprenaient très bien, elles ne sont pas complètement idiotes. Effectivement, s'il y avait une forme d'excentricité dont j'ai parlé au début de l'émission. Bon. En même temps, on l'a justifié pour la sécurité. Moi, je dis, dont acte. Vous avez vu à quel point je suis mignon. Hein, mignonissime, on pourrait dire. Mais là, quand on parle de l'universitaire, quand on parle de l'université, il faut quand même comprendre que cette fois, on parle de simple foulard, donc... Pas de problème d'identification du visage, un. Deux, on parle d'individus qui sont adultes parce qu'elles sont à l'université et qui plus est, plus difficilement manipulables a priori qu'un consommateur de base qui se fait manipuler par le marketing continuel et télévisuel, puisqu'elle est à l'université, elle a des objectifs. Donc, si on interdit le voile, on dit pourquoi on l'interdit ? Moi, j'ai fait plein de débats là-dessus.
Il y a un autre pays, l'autre pays laïque de la planète, c'est la Turquie, qui pendant très longtemps a interdit le foulard dans les universités.
Mais quand sur une personne on veut se régler, c'est par les beaux côtés qu'il la faut imiter. Hein. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, la Turquie n'est pas un idéal. De la même manière que quand on nous... j'ai dit à plusieurs reprises que la loi sur l'interdiction du voile intégral, pour moi, c'était de la saoudisation inversée du droit. C'est-à-dire qu'on faisait la même chose qu'en Arabie Saoudite, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'obliger, on interdit, ce qui pour moi revient au même. Moi, je suis dans une société libérale au sens... Attention, au sens politique du terme, hein, c'est-à-dire même Karl Marx était libéral. Je sais qu'aujourd'hui on parle de néolibéralisme, c'est pas pareil. Hein, donc moi je suis pour une société libérale au sens sociétal du terme, j'y suis très attaché et là pour moi c'est une régression. Maintenant, sur la question du voile à l'université, quand je dis ça à un certain nombre de députés ou avec lesquels j'ai pu discuter, ils me répondent, il y a des groupuscules. Alors je leur dis, écoutez, ils sont tellement puscules que nous, on les a pas vus. Donc dites-nous où ils sont, ces groupes, et on va faire quelque chose.
En même temps, Raphaël Laugier, vous défendez quand même une certaine américanisation de la société. Ça se trouve dans les pays anglo-saxons. Chacun s'habille non. comme il veut, chacun
Absolument
est
pas.
Dans le particularisme. Il y a une fonction quand même de la République qui est celle de l'intégration. Alors le mot n'est pas prêt à polémique, mais qu'est-ce que vous faites de quid de l'intégration quand vous avez chacun qui arrive avec ses singularités?
Il faut arrêter avec cette façon de voir les choses aujourd'hui en prétendant que la République, ça a été ceci, cela. Moi, je fais de l'histoire, je vous renvoie à l'histoire réelle et pas à l'histoire fantasmée aujourd'hui qui est directement indexée sur le mythe de l'islamisation. Regardons, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Napoléon Bonaparte, qui était en dehors de son côté sanguinaire, un fils de la Révolution, lorsqu'il est entré dans Berlin, qu'il a conquis la Prusse, il y avait un individu, Fichte, le philosophe qui écrivait des fameux discours à la nation allemande. Et qu'est-ce qu'il reprochait aux armées de Bonaparte ? Il reprochait aux armées de Bonaparte, donc les armées révolutionnaires, d'être une sorte de mélange ethnique qui remettait en cause la pureté de ce que doit être un guerrier teuton ou ce qu'aurait dû être un guerrier français, et que c'était une horreur absolue. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était la réputation de la France de 1789 ? C'était la mixité, y compris la mixité non seulement sociale, la mixité ethnique, et la mixité même d'accepter au nom de l'universalité que des mamelouks soient dans l'armée française. C'est la première armée au monde, enfin la première armée européenne à avoir accepté ça. Et donc là, la République française, ça a toujours été ça. Quelle différence y a ? La différence, c'est pas l'intégration, etc. Non, non, la différence, c'est qu'au Royaume-Uni, justement, un représentant de l'État peut demander à mettre un turban sikh, par exemple un policier. Mmh. Hein. Ça veut bien dire que c'est un représentant. Pourquoi ? Parce qu'au Royaume-Uni, on est moins soucieux qu'en France de la liberté, justement, d'expression. Aujourd'hui, on nous dit le contraire. La vraie tradition française, c'est celle-là.
En même temps, ils reviennent là-dessus. Le Royaume-Uni revient...
Ils peuvent revenir. Je vous dis, je ne vais pas vous répéter la phrase à propos de la Turquie. Hein. Mmh. Pour moi, c'est justement une voix française. Ce n'est pas une voix qui doit copier ce qu'il y a de pire chez les autres.
Michel Guéroux.
On a bien entendu. Vous dites donc le port du voile, par exemple, est plutôt choisi que contraint. Il ne faut pas légiférer de façon autoritaire par rapport à ces phénomènes-là. Pour autant, est-ce que vous constatez, comme d'autres, le fait que sur une ville comme Marseille, par exemple, et dans certains quartiers, les manifestations de signes identitaires religieux, le port du voile va de façon croissante. Est-ce que ça, cette présence du religieux dans l'espace public, est-ce que... comment vous interprétez ça ? Et est-ce que ça ne va pas à l'encontre
pratiques ? Il y a deux questions quand même dans votre question.
Il y a deux questions. Au moins deux.
Au moins deux. C'est-à-dire que d'un côté, comment est-ce que je l'interprète ? Alors, comment est-ce que j'interprète en tant que sociologue des croyances ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Bon, oui, il y a un effondrement des grandes idéologies, en particulier des idéologies organiques qui ont justifié l'État-nation. Et donc, là, les groupes, aujourd'hui, se retournent vers des récits, des narrations qui leur permettent de s'identifier à autre chose. Et ça va des bouddhistes au New Age, aux musulmans, c'est-à-dire que personne n'y échappe. Comme disait Bruno Etienne, lorsqu'on discutait de ce genre de sujet, les musulmans sont anormalement normaux. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, mais ils sont anormaux pour nous parce qu'on projette, mais en fait, ils font pareil que les autres. Hein, dans le truc. Ça, c'est mon interprétation sociologique. Maintenant, est-ce que vous me dites, est-ce que ça contrevient ? Est-ce que c'est... Moi, je suis pour observer les choses de façon sereine, sans a priori, et de se dire...
Enfin, il y a un petit peu le feu au lac, là, quand même. Vous avez le temps du sociologue n'est pas le même temps que celui du djihadiste,
non,
ni celui du politique.
Mais le feu est au lac parce qu'on allume le lac et qu'on met le pétrole préalablement sur le lac. Parce qu'en réalité, le feu, il ne vient pas des musulmans. Je suis désolé de le dire, hein, ça peut paraître extrêmement choquant, mais aujourd'hui, il ne vient pas des musulmans. Il vient de cet hooliganisme qui est lui-même lié à la projection de l'islam comme ennemi, qu'on a vu se développer très précisément avec des groupes qui se sont accrus de façon tendancielle depuis que ce discours est devenu un discours prégnant en même temps que les partis populistes qui sont censés défendre le peuple, le vrai peuple européen, partout en Europe, c'est-à-dire avec des phénomènes de gauchisation de l'extrême droite, de gauchisation illusoire de l'extrême droite, pour dire qu'elle défend tout le monde, y compris la laïcité, le progrès, toutes les valeurs, etc. Donc ça, c'est une mise en scène aujourd'hui populiste qui suppose la guerre culturelle, la guerre identitaire, qui effectivement met le feu au lac. Mais c'est en même temps le combustible qui met le feu au lac.
On voit des...
Mais j'ai pas répondu à votre deuxième question. Oui, je
mais on entend à Marseille et ailleurs, en PACA, des femmes issues de l'immigration qui ont mené des batailles féministes au Maghreb.
Et c'est très bien.
Et qui vivent douloureusement le fait de voir de jeunes filles finalement aller sur un registre de valeurs et de revendications religieuse,
bah oui,
qui va à l'encontre de ces batailles qui ont été menées.
Je pense
batailles qui sont celles aussi de la République et d'une forme de laïcité.
Quand mes enfants ne font plus ce pourquoi je me suis battu, ça me fait de la peine. Ça, c'est très douloureux, mais enfin, c'est une douleur qu'on doit supporter lorsqu'on est en démocratie, dans la mesure où il n'y a pas atteinte, attention justement, c'est là où c'est très précis, à l'intégrité physique et morale. C'est-à-dire que quand on me dit « Ah, Raphaël Yoger, vous tolérez tout ?» Pas du tout, je tolère beaucoup moins que Manuel Valls et que beaucoup d'autres personnes. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'application stricte du droit, l'application stricte de la laïcité, mais de l'application complète et totale. Ça veut dire que, par exemple, si on a la preuve qu'il y a une atteinte à l'intégrité physique et morale, il n'y a aucun, pour moi, il n'y a même pas tergiversation. Je vais vous donner un exemple.
Je vous en donnerai un autre.
Au niveau de l'hôpital. Au niveau de l'hôpital. Une jeune femme vient à l'hôpital avec son mari, soi-disant, dans toute cette espèce de truc, et elle dit « Je veux voir un gynécologue, je veux avoir un gynécologue femme, uniquement. » On fait comme on fait avec tout le monde. Mais comme avec tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a un gynécologue femme qui est présent...
À part que c'est pas elle qui le dit, souvent c'est le mari qui l'exige.
Imaginons que ce soit le mari. Imaginons que ce soit le mari. Mais à ce moment-là, c'est un problème social qu'il faut régler et qu'il faut régler en profondeur. Pas avec une sorte de, en légiférant de façon extérieure et ensuite en discriminant des gens qui n'ont rien à voir avec ça et qui, eux, ne se comportaient pas comme ça. Donc ça, c'est aussi ça le problème. Mais restons sur ce cas. La jeune femme, elle dit, ou son mari, hein, elle va dire « Je veux un gynécologue femme ». Il y en a une, on leur donne. Il n'y en a pas, on lui dit bah, « Madame, c'est facile, vous allez chez un praticien privé, vous allez dans l'autre clinique, dans l'autre, ou vous acceptez. » Point, on ne discute pas. Deuxième possibilité, elle arrive, c'est une urgence. Elle perd du sang, c'est l'horreur, etc. Elle demande « Gynécologue femme ». Il y en a une, on lui donne. Il n'y en a pas, on ne réfléchit pas, on dit « Madame, c'est direct ». C'est-à-dire que c'est la force publique dirait, et moi je suis pour l'intervention directe de la force publique, ça sert à ça, pas de discussion. Et 99% des musulmans, tous ceux que je connais moi, ils sont tous d'accord avec ça, parce qu'en plus, dans l'islam, y compris l'islam le plus rigoriste, dès que la vie est en danger, poum, toutes les règles sautent. Mmh. Donc je ne vois pas où est le problème, parce que quelqu'un qui refuserait ça, ça ne veut même pas dire, du point de vue des musulmans eux-mêmes, que c'est un bon musulman, ça veut juste dire que c'est un fou. Mais comme nous projetons sur ce qu'est l'islam, on va même en faire un fromage, c'est-à-dire essayer de trouver quand même, on va anticiper, on va dire, ah, on voit bien, c'est la guerre culturelle, ils veulent nous imposer, etc. Il faut sortir de ce type de mécanisme.
Alors, Raphaël Liogier, prenons un exemple sur Marseille. Très bien. Le salafisme piétiste est en augmentation.
Tout à fait.
Le boulevard national, par exemple, une partie du boulevard national, il y a une mosquée qui est complètement, c'est tout un quartier, qui est rempli de salafistes. Est-ce que...
Là, vous dites ça comme si c'était...
Parce
comme
que j'y suis allé.
Cafards.
Je me permettrai pas, mais en tout cas, c'est la norme dans ce quartier-là, c'est la norme. Est-ce qu'aujourd'hui, une jeune fille, on peut dire qu'aujourd'hui, une jeune fille est libre de porter une mini-jupe alors qu'elle est issue de l'immigration musulmane et de se promener librement? Est-ce que ce n'est pas une atteinte à sa liberté à elle?
Tout à fait, c'est une atteinte à sa liberté à elle, mais il appartient à l'État, c'est pour ça que je vous disais que j'étais pour un État fort, à l'État de permettre la liberté de circulation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire de la République et de ne pas faire son malin en disant « les musulmans sont responsables, je ne sais quoi, etc. » S'il y a dans les quartiers des jeunes filles qui sont contraintes de se mettre un foulard pour ne pas se faire siffler, ce n'est pas la responsabilité...
C'est ce qu'on appelle le tribunal du quartier. Hein.
Ce n'est pas la responsabilité des gens qui sont sur le quartier, c'est la responsabilité des pouvoirs publics qui préfèrent laisser s'envenimer la situation. Moi, là, je suis pour une intervention, je vous le dis, directe, rigoureuse et forte pour que la République soit, alors pour le coup, soit respectée, mais pas dans des valeurs fantasmagoriques, dans des valeurs réelles, d'un point de vue réel. Donc là, je suis d'accord avec vous.
Raphaël Liogier, oui. vous mettez « si ». Cette situation, elle existe dans nos
tout
nombreux
ça,
quartiers. C'est-à-dire que cette pression culturelle, hein, je ne sais pas si ça relève de la religion, de la culture, cette pression culturelle, elle existe.
Ce n'était pas un si subjonctif. Je veux dire que c'était un si au sens où je dis que, puisque, en quelque sorte, c'est comme ça, il faudrait que, mais moi je ne suis pas au pouvoir, eh bien, c'est que les forces de police interviennent, parce que c'est là où les forces de police sont utiles. Les forces de police ne sont pas utiles en allant faire des bavures racistes, comme on a pu les connaître à Marseille, et qui enveniment la situation sous prétexte qu'ils anticipent sur le fait que ça doit être ceci, etc. Elles doivent se fixer par rapport à ce qui est, et pas par rapport à ce qu'elles imaginent qu'il doit y avoir, hein. Et donc, si elle se fixe par rapport à ce qui est, s'il y a des plaintes de jeunes filles dans un quartier, eh bien, on doit les protéger.
Et pour le coup, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire intervenir la police par rapport à une pression morale ou à des moqueries ou plus violemment à des insultes
on doit intensifier la présence. Plus que sur les Champs-Élysées, plus que dans les quartiers centraux, on doit intensifier la présence policière pour ces raisons-là, et on doit savoir que c'est pour ces raisons-là. Point.
La pression sécuritaire, le choix sécuritaire, ouais. On traite toujours ce genre de sujet par cette lucarne-là. Vous semble la bonne? Il en faut aussi, vous me dites?
Moi, je pense qu'il en faut aussi. C'est-à-dire que je pense que le problème essentiel, c'est un problème symbolique, sentiment d'humiliation, etc. Et c'est un problème social qu'il faut traiter et qu'on ne traite pas en réalité. Mais ensuite, il y a le court terme immédiat. Moi, je suis républicain. Je suis pour que les personnes qui sont en situation de fragilité, par exemple les femmes, et qui décident de s'habiller d'une certaine manière et qui subissent la contrainte, eh bien, qu'elles soient protégées et qu'elles soient protégées réellement. Juste une petite chose qui est marrante, parce que c'est ce que m'a dit Olivier Roy il y a deux jours. Il me dit qu'il a étudié différentes villes et dit il n'y a pas de justement ces groupes de hooligans musulmans. Donc, il est très peu probable qu'il y ait un terroriste issu vraiment de Marseille qui vive, même s'il y en a qui peuvent passer. Hein.
C'est un lieu de passage.
Voilà. Et il dit, mais pourquoi? Il dit, pourquoi il n'y en a pas? Il dit, pourquoi? Parce que, il me dit, tu as raison, Raphaël, c'est la question une sorte de virilité, de projection, des rêves déchus. Et comme à Marseille, on peut devenir caïd, c'est pas la peine de devenir djihadiste. Ça, c'est une réflexion qui est intéressante, sur laquelle les services de sécurité devraient plus réfléchir que sur cette espèce de continuum entre l'islamisme et...
L'émission avance et j'aimerais que vous dites, j'arrive plus à parler, quelques mots concernant cette notion de populisme liquide dont vous parlez, et peut-être pour faire le lien sur la question de l'instrumentalisation par l'extrême droite, par le Front National, de cette notion de laïcité, avec un jeu comme ça de valeurs qui fait que...
Ouais. Regardez, alors on va partir par un exemple. Dans les années 80, Jean-Marie Le Pen, père de la célébrissime, devenue célébrissime Marine Le Pen, était contre la laïcité. Pour lui, la laïcité, ça voulait dire le complot judéo-maçonnique. C'était un peu, il l'avait dit à plusieurs reprises, c'est le complot judéo-maçonnique. Quand il parlait de François Mitterrand, il disait François Mitterrand, c'est un président horrible parce qu'il est à gauche, la gauche, c'est l'horreur de l'horreur. Aujourd'hui, vous avez une Marine Le Pen qui dit la laïcité, c'est le top, il faut absolument défendre la laïcité. Et puis, lorsqu'elle parle du président Hollande, elle dit le président Hollande est un mauvais président. Non, parce qu'il n'est pas assez socialiste. Laissez tomber les pauvres. Je crois qu'il y a quand même un problème. Là, il s'est passé quelque chose quand même d'assez radical. Ben, la laïcité a été vidée de son contenu juridique, celui que j'évoquais, dont on a parlé, pour devenir une sorte de morceau du patrimoine national, comme le vase de Soissons, ou moi je dis souvent, comme le château de Versailles, qu'on va faire visiter, mais qu'on n'habite plus. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'habite plus la laïcité, on la fait visiter, on dit c'est vachement beau le château de Versailles, il faut le défendre, qu'est-ce que c'est merveilleux. Ben là, c'est pareil avec la laïcité. Et pourquoi est-ce que la laïcité a cet impact aujourd'hui? Elle a cet impact en raison de ce populisme. Le populisme, c'est quoi? Le populisme, c'est quand, à un moment donné, on est dans une telle crise symbolique, une telle crise identitaire, que les gens se sentent encerclés dans une sorte de sentiment de paranoïa qui dépasse la simple crise économique. C'était le cas dans les années 30. En Allemagne en particulier, parce qu'il y avait eu amputation de territoire, toute une série de choses, sentiment d'humiliation. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Les Européens, les peuples européens se sentent dans cette situation. Ils se sentent encerclés. Du coup, il n'y a plus de programme politique. La seule chose qui compte, c'est l'émotion. C'est au profit d'une sorte d'émotion qui n'est plus de droite, plus de gauche. Et c'est ça, moi, qui me semble extrêmement grave. Du coup, vous allez avoir des gens comme Manuel Valls, moi, que j'appelle des progressistes réactionnaires, et des gens comme Marine Le Pen, des réactionnaires progressistes, et qui vont danser sur la même piste, qui vont dire la même chose au nom de la défense du peuple, en utilisant un concept comme la laïcité, au service de ça. Mais comme le peuple, dans le populisme, il y a un peuple qui a à défendre, il faut des faux peuples, des peuples qui ne sont pas tout à fait peuples, des ennemis de l'intérieur. Et c'est là où intervient le musulman, c'est là où intervient l'islam. Et pourquoi l'islam? Parce qu'il y a eu la colonisation, donc ça a l'air d'être une colonisation inversée. Donc ça, parce que le musulman, c'est en même temps le sarrasin ennemi multiséculaire de l'Europe judéo-chrétienne. Donc les réactionnaires s'y retrouvent. Et puis ça fait en même temps l'ennemi des valeurs de liberté, d'expression.
Il a quand même très vite remplacé le russe et avant lui l'allemand.
Voilà, mais le musulman est quand même très pratique, parce que le gros avantage par rapport à l'allemand, par rapport au russe et par rapport aux juifs, c'est qu'on dit, mais attendez, on n'est pas raciste et c'est pas parce que ces gens sont... Non, c'est seulement une culture. Aujourd'hui, c'est par la culture qu'on est raciste. Le populisme actuel, c'est un populisme culturel. C'est pour ça que la laïcité est devenue un instrument d'hygiène culturelle qui justifie le dit, il y en a qui sont moins que d'autres, mais c'est pour des raisons culturelles. Attention, il n'y a pas de problème. Ça, c'est extrêmement important. Pourquoi liquide? Parce qu'on n'est plus dans le royaume des idéologies strictes et solides, qui peuvent être horrifiques, telles qu'elles étaient dans les années 30, mais on est dans le royaume de l'opiniologie, où tout peut changer en temps réel, ça devient le Rome, après c'est le musulman, après c'est le truc, ça va être les homosexuels, et puis les musulmans eux-mêmes, comme ils sont anormalement normaux, comme disait Bruno, ils vont la main dans la main avec les intégristes qui étaient leurs ennemis d'hier, et ils vont trouver d'autres ennemis qui sont les lobbies homosexuels, etc., etc. Et à la fin, qu'est-ce qui reste? Il reste juste le sentiment d'être encerclé par des forces qu'on connaît pas très bien. C'est ça, ce populisme liquide, qui fait qu'il est liquide au sens où il corrompt progressivement l'ensemble de la politique, la constitution, les droits de l'homme, sans même qu'on s'en rende compte, contrairement aux années 30.
Alors, quand même, Raphaël Liogier, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet, comme l'ensemble de la société? Bon, on a vu que les sujets variaient en fonction des médias, etc. On était dans une espèce de halo d'inquiétude, mais il y a quand même des faits. On a commencé cette émission en parlant du massacre de Charlie Hebdo, de la supérette cachère. Il y a un label qui est né en Irak qui s'appelle Daesh. Vous êtes un peu inquiet ou vous regardez ça avec les lunettes avec le temps, va apaiser tout ça?
Non, au contraire, mais c'est pas parce que je dis qu'on n'est pas dans un processus qui est lié à la radicalisation, c'est beaucoup plus grave en réalité. C'est beaucoup plus grave. C'est constitué depuis le début des années 2000, ce que j'appelle un marché global de la terreur, avec des parts de marché de la terreur, mais en raison du développement de Facebook, c'est-à-dire d'une sorte de grand bain informationnel qui fonctionne de façon interactive.
Vous n'allez pas nous dire vous aussi qu'Internet principal facteur de djihadisme.
C'est pas le facteur, c'est le média, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a entre les deux. Et aujourd'hui, les gens racontent leur vie à travers Internet. Moi, je travaille sur comment est-ce qu'on a pour exister, on raconte sa vie. L'homme est celui qui raconte sa vie, du pilier de bar jusqu'à la société elle-même qui, dans les musées, raconte à quel point c'était bien d'avoir des pots de chambre et de pisser de cette manière-là au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est pour raconter une histoire. Et donc, on raconte son histoire. Et aujourd'hui, la manière qu'on a de raconter son histoire est complètement décentralisée à travers Facebook, à travers toute une série de choses. Ça a été pris en compte par Daesh. Qu'est-ce qu'a fait Daesh dans une logique de marque? Qu'est-ce qu'a fait Daesh dans le marché global de la terreur? Il y a deux choses lorsqu'on a une marque d'habits ou d'autres. Un, il faut aller plus loin. Et donc, d'où les exécutions avec une accentuation de la cruauté mise en scène à l'échelle planétaire pour prendre le marché.
Là, on est carrément dans Pasolini, la République de Salo.
Et deux, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut trouver une niche, quelque chose de particulier que n'a pas l'autre. Qu'est-ce qu'a fait Daesh? Elle a dit, c'est pas l'islam, rien que l'islam pur, c'est seul le sunnisme et l'islam pur. C'est une chance, 90% des musulmans sont sunnites, et en même temps, sur place, il y a les frustrations des sunnites qui sont gouvernés par les chiites et qui sont pourtant majoritaires. Et ils prennent le marché.
On arrive au terme de cette émission. Une dernière question. En 2001...
Et c'est grave qu'il y ait un marché global de la terreur. Beaucoup plus grave que l'islamisme en réalité.
En 2001, l'islam a fait son entrée dans la politique locale à Marseille avec cette histoire de mosquée. Vous pensez que c'est irrémédiable? Aujourd'hui, on ne peut plus faire de politique sans parler d'islam. Et à chaque élection, on voit ça de manière récurrente.
C'est triste, mais je vous dis, c'est parce que l'islam c'est devenu un point de fixation au sens psychanalytique du terme. Il faudrait régler ce problème de fixation psychiatrique, hein. C'est ça. Pourquoi est-ce que le sous-titre de mon livre, Le mythe de l'islamisation, s'intitule Essai sur une obsession collective? Si on sortait de cette obsession collective, on pourrait voir les choses en face, on pourrait cibler, même quand on fait des politiques de sécurité, et pas tirer n'importe où et engendrer des phénomènes contre-productifs.
Raphaël Laugier, je vous remercie. Il reste quelques minutes et on va vous parler maintenant du Ravi. Vous savez que le Ravi a des difficultés financières, comme la plupart des jourdons à Marseille, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et plus généralement en France, bien entendu. Donc des choses sont faites, des choses sont à faire. Michel Guéroux, vous allez nous en parler.
Oui, le Ravi, qui est le journal qui ne baisse jamais les bras, est en redressement judiciaire. C'est le Ravi maintenant qui redresse les bras. On mène, vous le savez, un couscous bang-bang royal, donc avec une opération pour arriver à 5102 abonnés en 2015. Le compteur avance, mais on a besoin de vous pour que ça aille plus vite. Et puis, on est sur tous les fronts et sans faux mauvais jeu de mots. Et on organise aussi une soirée de soutien. C'est à la mode en ce moment. La Marseillaise le fait. Nous aussi. Et ça s'appelle le Grand Pardon. Alors, on est dans une thématique peut-être religieuse. En tout cas, c'est un clin d'œil aussi, évidemment, à Tout est pardonné, la une de Charlie. Puis à notre une aussi, Tout est pardonné, avec un Jean-Noël Guérini qui est ravi, il veut nous racheter, mais nous on ne veut pas parce qu'on n'est pas à vendre, on est une association, on n'a pas d'actionnaire. Voilà, donc là, ce vendredi 13 mars, ça sera au Dock des Suds, ça sera un moment pour faire la fête, c'est un moment important pour soutenir le journal. Et là, on a la scène électro-marseillaise, on a Imhotep, Dayam, on a les Chinesemen en partie, on a Kid Francesco Lisa, il devait venir, et finalement il n'est pas là, mais il y en aura d'autres, il y a Cantès par exemple, qui viendra faire avec d'autres des DJ sets. Ça va être sympa, il y aura aussi des dessinateurs du Ravi qui feront des dessins en direct. C'est au Dock des Suds, c'est le 13 mars. Allez sur le www.leravi.org pour voir ce qu'il en est. Les places sont en pré-vente, je fais un peu de retable.
Mais
moi
c'est
aussi
normal.
C'est 15,80 €, c'est pas cher avec les frais de transaction, il faut y aller, il faut venir, on a besoin de vous et puis on a envie de faire la fête.
Puis au-delà de cette soirée, vous pouvez vous abonner n'importe quand au Ravi ou l'acheter dans tous les kiosques. Encore une fois, Raphaël Laugier, je vous remercie. Michel Guéroux, on vous dit au mois prochain. Plein de bonnes choses. Bye.
Merci à vous.
C'était très...